Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute.
Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
Ah non, c'est chouchou, je veux, pas la moche.
Zut, re-zut et re-zut derrière.
Ah, je vois, monsieur se fout de moi, monsieur fait d'ironie.
Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque?
Ben ça, c'est du spectacle.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
All this beautiful, le vieux c'est beau et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Salut les amis.
Hello.
Hello.
Comment ça va depuis cette incroyable séance hier soir à l'Hurlequin?
C'était super.
Oh là là, quel bon film.
C'était génial et vraiment.
Qu'est-ce qu'on a passé un bon moment.
Ah oui. Et puis Nicolas, vraiment, c'était honteux que t'aies pas vu ce film.
Ah oui, mais non, c'était pas moi, c'était toi.
Mais non, c'était
la magie était vantée. Ouais, okay. La magie était vantée.
Mais oui, c'est surtout pour les gens qui vont, pour les Josiane qui vont l'avoir le samedi, ce gag est complètement grave. C'est vraiment une catastrophe. Alors, si on s'attaquait direct à notre film de patrimoine de la semaine, Bande d'oiseaux de malheur.
People once believed that when someone dies, a crow carries their soul. The land of the dead. But sometimes, just sometimes, the crow can bring that soul back to put the wrong things right.
The Crow d'Alex Proyas avec Brandon Lee et Rochelle Davis qui ressort dans une version 4K restaurée par Paramount Pictures et ESC Picture par Paramount Pictures.
Paramount Pictures.
Et ESC Distribution, qu'est-ce que c'est que cette histoire de corbeau encore? Est-ce que quelqu'un nous raconte d'où vient ce film? Et en l'occurrence, d'une série de comics des années 80. Quelqu'un veut s'y coller?
Bah voilà, c'est ça, c'est des comics des années 80.
Merci Simon. Il va être court cet épisode. L'auteur des comics s'appelle James Hobart. C'est des comics... Assez noir, dont il a l'idée d'ailleurs au début des années 80, parce que lui-même commence à dessiner les premières pages en réaction au décès accidentel de sa petite amie 3 ans plus tôt, qui est fauchée par un conducteur en état d'ivresse. Et donc c'est de là que vient vraiment l'esprit du comics The Crow, qui va avoir ses premières planches et son succès à la toute fin des années 80, et finir par donner lieu à une adaptation dont on peut dire que l'adaptation aura pu avoir différents visages, puisque avant que Alex Proyas récupère le bébé, il y a une possibilité, en tout cas les débuts d'une adaptation qui aurait pu être faite en comédie musicale avec Michael Jackson, donc qui aurait donné lieu
un film
très très différent.
Je suis fasciné par le fait que Michael Jackson, à une époque, ait vraiment cherché à prendre n'importe quel bouquin pour en faire une comédie musicale avec lui dedans, parce qu'il a fait pareil avec Hook. Hook aurait dû être une comédie musicale avec Michael Jackson.
Et arrive donc l'année 1994, enfin plutôt l'année 93, le temps que le film se monte et se tourne. Alex Proyas n'en est pas tout à fait à son premier coup, même si c'est le premier long métrage qui va le lancer, puisqu'il a fait juste avant un film dont je vais vous retrouver le titre immédiatement, qui n'est pas un film qui a eu beaucoup de succès, qui est passé un peu inaperçu et qui s'appelle Spirit of the Air, Gremlins of the Clouds, absolument.
Alors il faut peut-être faire un petit point sur...
C'est un film australien.
Exactement, il faut peut-être faire un petit point sur Alex Proyas, parce que c'est une personnalité particulière, singulière du moins, de l'histoire du cinéma de ces 30 dernières années. Alex Proyas, c'est donc un cinéaste australien qui naît à Alexandrie d'une famille d'origine grec. Ça a son importance, parce que le travail de cinéaste d'Alex Proyas va être... souvent le résultat, le fruit d'un mélange d'influences, de cultures et de visions, pas toutes compatibles les unes avec les autres d'ailleurs. Mais donc, Proyas, c'est donc un réalisateur australien d'origine grecque. Il n'est pas tout seul, puisque c'est aussi le cas de George Miller, de son nom de naissance, Yorgos Miliotis. Et Proyas, il va faire des études de cinéma, parce qu'évidemment, il devient cinéphile comme beaucoup de cinéastes très jeunes, par l'entremise de son père. Il va faire des études pour devenir cinéaste en Australie. problème, les débouchés en Australie, c'est pas tip top. Alors il va commencer à développer des scénarios un peu dans son coin, il va travailler à réaliser des clips vidéo, il va notamment réaliser un clip pour INXS, le fameux groupe de pop de l'époque. Et d'ailleurs, c'est avec le chanteur du groupe INXS, Michael Hutchence, qu'il a développé son premier long métrage qui était produit pour vraiment pas grand chose. C'était vraiment un tout petit film. Le problème, c'est que entre le moment où ils ont commencé à développer le projet et le moment où il a donné le premier tour de manivelle, INXS était devenu un groupe mondialement connu, donc ils se sont barrés ailleurs. Et Proyas a fini le projet un peu tout seul, ça lui a pas apporté grand-chose. Par contre, ce qui a été une étape très importante dans sa carrière, c'est qu'il est parti aux États-Unis pour travailler pour une boîte de clips et de publicité qui s'appelait Propaganda Film, qui a eu la particularité d'être cofondée, entre autres, par David Fincher. Et Proyas va donc intégrer cette écurie de cinéastes, et c'est pas compliqué. Si vous voulez savoir vraiment c'est quoi le cinéma américain des années 90, c'est pas le cinéma de Paul Thomas Anderson, c'est pas le cinéma de Quentin Tarantino, parce que ces mecs-là, esthétiquement et intellectuellement, en fait, ils s'inscrivent dans l'héritage d'un cinéma qui est bien plus ancien, celui des années 60, 70 et un peu 80 aussi. Non, le cinéma des années 90, c'est justement le cinéma qui naît avec les nouveaux talents révélés par Propaganda. Alors, il y en a des très bons, Fincher évidemment, Spike Jonze, il y en a des plus fragiles, comme Michael Bay, et puis il y en a des vraiment tout pourris, comme Antoine Fuqua ou Zack Snyder. Donc il y a un peu à boire et à manger dans cette génération-là. Il n'empêche que cette boîte-là, qui à la base se destine aux vidéoclips et à la publicité, va complètement révolutionner le cinéma des années 90. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut appréhender The Crow, parce que je pense que The Crow est peut-être l'image d'épinal de ce que c'est qu'un film de divertissement, qui plus est pour un public d'adolescents, parce que le film vise vraiment les adolescents, dans les années 90.
Et alors justement, est-ce qu'on peut parler un peu de ce qu'est ce film, outre le projet d'adaptation ? Il faut rappeler que le film aura une postérité malheureuse, puisque c'est sur le plateau de tournage que son acteur principal, Brandon Lee, fils de Bruce Lee, va mourir de façon accidentelle en prenant une balle qui était restée dans le canon d'un pistolet qui avait été rechargé avec des balles à blanc. Et donc, en le rechargeant, la balle a été expulsée par la balle à blanc et c'est cette balle-là qui l'a tué malheureusement. D'ailleurs, ça a pas mal changé les conditions de tournage puisqu'il a fallu finir le film sans son acteur principal. Mais avant ça, peut-être qu'on peut raconter un peu ce que c'est que The Crow et pourquoi ce film est devenu culte pour les gens qui se teignent les cheveux en noir et qui écoutent Coil ou Virgin Prunes.
Il est devenu culte pour plein de raisons. D'abord, avant même de parler, d'évoquer, on va dire, combien pour la communauté gothique, c'est un des rares films, on va dire, qui puisse faire figure de porte-étendard stylistique. C'est aussi un film qui est à la croisée, tu le disais un peu tout à l'heure en parlant de Proyas et de sa méthode de travail, à la croisée de plein de modes et de plein de moments. Je vous le disais, on est en 94, on est donc 5 ans après la sortie d'un petit film qui s'appelle Batman, 2 ans après la sortie de Batman Returns. Or, ce qu'a accompli Tim Burton et le succès planétaire qu'il a rencontré, ce qui était sur le premier film, absolument, mais qui a dépassé toutes les attentes de tous les studios. On parlait de Batmania à l'époque. C'était quand même en proposant un sacré diptyque gothique, il faut bien le dire. Donc tout d'un coup, l'idée de proposer quelque chose qui se passe dans cet univers ou un univers compatible, donc une mégalopole très sombre, qui soit en gros entre Batman et Blade Runner, c'est quand même quelque chose qui titille les exécutifs de studio. On en a envie, on se dit que le public en veut. Il y a effectivement, on va dire, post-Cobain, toute une mouvance qui s'oriente désormais vers le gothique, quoi. Après le grunge, il faut être un peu diaphane et s'habiller avec de la dentelle noire et si possible déborder. Et tout simplement, évidemment, The Crow, c'est l'objet parfait pour aller là-dedans. Donc c'est l'histoire de ce jeune homme qui est tué avec sa compagne. Qui va rencontrer le corbeau, quoi, et qui se voit proposer.
Pourquoi cet accent?
Ça m'a traversé. Le corbeau m'a dit vas-y, on y va à la Berrichonne, quoi. Il rencontre donc le corbeau et puis qui donc va revenir d'entre les morts, invincible, pour venger sa bien-aimée et donc répandre un petit peu de viande sur les murs. Le film va devenir culte parce que c'est à la fois un manifeste esthétique de tout ce que peut donner MTV et une certaine imagerie du clip vidéo de l'époque, parce qu'il s'inscrit encore une fois dans la queue de comète. Moi, quand je l'ai vu gamin, j'ai vraiment eu l'impression de voir une continuation de Batman ou quelque chose qui se déroulerait dans Gotham City, même si bien sûr c'est pas la seule référence, avec ses couleurs très désaturées qu'il approche parfois quasiment du noir et blanc. Le film effectivement est vraiment une une déclaration de style, quoi, un manifeste gothique. Et donc, il est comme ça au carrefour de plein de croisements. Et puis, il y a effectivement la mort de Brandon Lee, qui va être entouré à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi, j'étais en cours d'école, en primaire, à cette époque-là. Qui va être entouré de plein de mystères, de plein de rumeurs. Enfin, moi, j'entendais dire, gamin, que c'était les triades qui avaient voulu tuer le fils de Bruce Lee, etc.
Il y a eu énormément de théories du complot. Mais c'est le cas aussi avec Bruce Lee, il y avait pareil des théories du complot autour de son décès prématuré, alors que il est mort d'une intoxication médicamenteuse, quoi. Mais comme les deux, le père et le fils, sont morts, je crois, pile à 30 ans d'écart, je crois que Bruce Lee c'est 74 et Brandon Lee du coup c'est 94 ou 93 en tout cas.
73, 93,
voilà, merci Nicolas. Il y a eu pareil, ouais, tout un tas de théories du complot. Et puis il faut pas l'oublier, le pôle créatif du film, donc Alex Proyas et ses producteurs ont globalement gérer la chose avec dignité. D'ailleurs, il faut le dire, pour Alex Proyas, ça a été un traumatisme dont il s'est jamais remis. Il a jamais revu le film, il en parle quasiment jamais. Ou alors de manière très évasive, parce que c'est encore très très vif. Par contre, la presse de l'époque ne s'est pas grattée pour faire des titres un peu ce qu'on aurait appelé putaclic aujourd'hui,
putassier,
voilà, racoleur sur oh là là, c'est, vous allez voir un fantôme à l'écran parce que Brandon Lee est mort, etc.
Bah, et puis il joue juste un peu, il joue un fantôme, donc il y a un truc un peu,
ça redouble la diégèse du film, quoi.
Et puis si je me trompe pas, en plus c'est sa doublure qui a dû prendre le relais. Sa doublure est un homme dont on a parlé il y a
tout à l'heure,
quelques jours,
absolument,
puisque c'est Chad
Stahelski
qui a fait la doublure et des effets spéciaux multiplié quasiment le budget du film par deux.
Ah ouais.
Mais il y avait une des premières incrustations numériques de visage, notamment.
Ouais. Et puis il a fallu retourner une partie des séquences, notamment la scène durant laquelle Brandon Lee est mort, c'est la scène d'ouverture du film. Du coup, cette scène-là, on n'a jamais fini de la tourner, donc il a fallu la reshooter, la remonter, ça a pris du temps et ça a été compliqué.
Oui, parce qu'ils se sont dit qu'effectivement, c'était pas une bonne idée de garder la scène originale.
Non, les rushs ont été détruits d'ailleurs.
Arthur, tu as revu récemment The Crow, qu'est-ce que tu en penses ?
Non, je n'ai pas revu, je l'ai découvert.
Tu l'as découvert, d'accord.
Tu l'as découvert parce que justement, pour moi, The Crow, ça a longtemps été le film où le film Bruce Lee est mort. Et je le situais un petit peu, effectivement, milieu années 90, réalisateur qui par la suite fera Dark City et iRobot, donc je voyais un peu, mais je ne l'avais jamais vraiment vu. Par contre, je connaissais un petit peu le comics, sans l'avoir vraiment lu. J'avais déjà vu les planches, je connaissais le noir et blanc, je connaissais ce trait un peu particulier. Et donc, quand j'ai découvert le film il y a quelques jours, il y a plusieurs trucs qui m'ont sauté aux yeux. Effectivement, donc c'est la Bible des gothiques, ça c'est évident. C'est un film qui est pile dans son époque, et pour son esthétique, et aussi pour justement la figure du super-héros, entre guillemets, puisqu'il s'inscrit parfaitement entre le après-Batman et le avant Blade, X-Men et tout ce que Marvel a pour commencer à engendrer. Spawn, évidemment. Il m'a fait rappeler aussi un film qui n'est pas beaucoup commenté, peut-être à raison, je ne sais pas, mais par certains aspects de la noirceur de la ville et la crasse, moi, il m'a un peu rappelé Darkman de Sam Raimi, qui est sorti en 90.
Ouais.
Et qui a aussi un petit peu de ce truc-là de pas hésiter à montrer un petit peu de sang,
et puis d'avoir un héros qui flirte avec l'horreur.
Clairement, Darkman, il est clairement défiguré. Là, même s'il est maquillé, tu sens qu'il doit pas sentir très bon, le bonhomme. Il a passé quand même un an avant d'être ressuscité, le personnage dans le film. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment sauté aux yeux. Et effectivement, l'imagerie gothique, quoi, et tout ce que ça a engendré. C'est pas le premier. On parlait de Batman. On pourrait aussi citer d'une toute autre manière, mais d'un autre film de Tim Burton qui est Edward aux mains d'argent, qui est le film tel qu'on l'imagine gothique. Mais ouais, pour moi, c'est un film qui est vraiment dans une espèce d'entre-deux qui est assez fascinant à regarder et qui est, avant tout, un très bon divertissement. C'est-à-dire que c'est pas un film qui est révolutionnaire dans sa formule. C'est vraiment donc qui se réveille et parce que c'est quoi ? C'est le corbeau et la figure qui va faire voyager les âmes. Mais parfois, quand l'âme est trop peinée, le corbeau remet l'âme dans le corps pour qu'elle puisse avoir une deuxième chance, en gros.
C'est ça. C'est exactement ça.
Et du coup, il y a vraiment ce truc de il va les zigouiller un à un. Et la promesse, elle est là. Et c'est ce qu'il va faire. Et vraiment, il va pas faire beaucoup plus. Alors, il va t'ajouter une adolescente pour créer un peu un truc machin. Il va t'ajouter un flic avec qui il va un peu s'associer, tel un Batman et Gordon. C'est pas beaucoup plus que ça. Mais par contre, ce qu'il fait, il le fait très bien. C'est vraiment c'est un peu le débat qu'on a eu il y a quelques jours sur The Fall Guy. Il y a quelques jours, wink wink. C'est un film popcorn, mais dans le sens pas péjoratif du terme. C'est vraiment, je pense, un film qui était grand public, grand spectacle, qui se voulait être juste un film d'action et qui a été dépassé par ce qu'il a été. je pense, et qui a été considéré pendant des années comme un film maudit, même si c'est devenu une franchise, hein. Il y en a eu deux autres derrière, si je me trompe pas.
Même trois, et il y en a toujours un avec Vincent Pérez.
Bah, le deuxième.
Oui,
le deuxième,
j'ai acheté en DVD, en pensant acheter le premier.
Le deuxième, c'est Vincent Pérez. Le troisième, c'est Edouard Furlong, je crois.
C'est absolument.
Et après, il y a une série télé avec Marc Dacascos.
Il y a une série télé avec Marc Dacascos, et il y a un quatrième.
Remake.
Non, qui est pas un remake.
Ah.
Qui est une suite avec celui qui joue le boss dans Ugly Betty.
Puis il y a le remake reboot qui arrive tout
prochain. Bah c'est pour ça, en fait,
je voulais
qu'on en parle un mot, parce qu'effectivement
c'est le troisième avec Eric Mabius, et le quatrième avec Edward Furlong.
D'accord.
Si on vous en parle aujourd'hui, c'est effectivement parce qu'il y a la ressortie 4K Paramount, mais si la ressortie 4K arrive à ce moment précis, c'est peut-être parce que fin août sort une nouvelle monture, un remake avec dans le rôle principal Bill Skarsgård, qui est donc le fameux clown de la saga It, et dans le rôle féminin, une chanteuse, artiste, rappeuse que dans le monde de musique on connaît, mais que dans le monde du cinéma on ne connaît pas encore, qui est FKA Twigs. Et donc c'est un peu le prétexte de, avant de voir le nouveau, doit-on voir l'original ? Moi je suis content de l'avoir vu en tout cas pour savoir un peu de quoi on parle au départ. Même si j'ai envie de lire le comics.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Alexis, oui.
Ouais, en fait, moi, il se trouve que j'avais vu, comme beaucoup d'adolescents un peu métalleux, grunge sur les bords, j'ai vu beaucoup d'images de The Crow, mais j'ai découvert le film aujourd'hui, dans sa globalité, en fait.
Ah ouais?
Ouais. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup, The Crow. Et en fait, je pense qu'il faut le réceptionner avec les bons yeux. Déjà, tout à l'heure, je le disais, Alex Proyas, c'est un cinéaste qui grandit en Australie. L'Australie a une particularité, du moins à l'époque où Alex Proyas est encore jeune, et c'est pas un pays où il y a une industrie du cinéma. Il y a des films qui ont été faits, et il y en a même qui sont devenus cultes, comme la trilogie des Mad Max. Il y a des cinéastes prestigieux, hein, puisque outre George Miller, il y a Jane Campion, par exemple, qui vient d'Australie. Mais il n'y a pas d'industrie. C'est très compliqué de faire son trou là-bas. Et du coup, comme je l'ai dit, bah, Proyas, il va commencer à développer des scénarios en se disant que peut-être, par le biais de l'écriture, il arrivera à se faire un petit nom, à se décrocher des contacts. Et il va assez rapidement commencer à développer un brouillon d'histoire qui deviendra Dark City, le film qu'il réalise en 1998, qui est bien meilleur que The Crow, hein,
qui est vraiment un gros cran au-dessus.
Ah oui, non, mais largement. Sauf que ce film-là, il commence à le développer à Hollywood au début des années 90. Il y a un studio qui a mis son grappin dessus puis qui finalement va le laisser tomber. Le film part dans un enfer de production interminable, ce qui fait que Alex Proyas commence à se dire que son Dark City ne verra jamais le jour. Et c'est dans cet état d'esprit qu'il va accepter pour, initialement, Paramount Pictures, qui entre-temps, d'ailleurs, c'est rigolo que ce soit eux qui ressortent le Blu-ray, parce qu'entre-temps, ils ont laissé tomber le film. C'est Miramax qui l'a distribué, parce que Paramount ne voulait pas le sortir à cause du décès de Brandon Lee. Il va accepter cette commande, donc The Crow, qui n'est pas un projet personnel du tout, mais il se dit, écoute, c'est mon premier film de studio, j'ai plein d'images dans la tête pour un film qui s'appelle Dark City, que je vais certainement jamais réussir à réaliser, et je vais foutre un peu toutes mes idées pour Dark City dans The Crow. Et du coup, ce que je trouve super intéressant, outre le fait qu'il y a des tonnes d'idées de mise en scène et d'expérimentation visuelle dans The Crow qui sont passionnantes à regarder, il y en a qui fonctionnent super bien. Le premier plan du film est magnifique. C'est un mélange entre des maquettes et des incrustations numériques. Ouais. On zoome dans une maquette et puis on atterrit dans un vrai décor avec des vrais acteurs. Évidemment, ça se voit qu'on a manipulé un peu la pellicule, mais il y a un côté justement un peu suranné, un peu organique, qui encore aujourd'hui fonctionne super bien. Il y a des intentions de lumière héritées tout droit de l'expressionnisme allemand qui fonctionnent pareil à fond. Il y a des trucs qui fonctionnent moins bien, et d'ailleurs la post-production catastrophique du film n'y est pas pour rien. Il y a des effets spéciaux numériques qui marchent pas du tout, et notamment des incrustes de visage. Il y en a une qui est totalement crédible, qui est celle où Eric Draven est au bord de la fenêtre avec son corbeau sur l'épaule. Ouais. Bon, bah, ça, c'est pas Brandon Lee, il était déjà décédé à ce moment-là. C'est Chad Stahelski, et l'incrustation du visage fonctionne très très bien. Il y a d'autres moments
si
où
tu
ils
sais
ont...
pas, tu peux pas la déceler.
Voilà, ah, moi, mais il y a d'autres moments où ils ont récupéré des chutes de rush pas exploitées, de mauvaises définitions, et là, ça pique un peu. Mais donc voilà, le film est loin d'être un film parfait, ni loin d'être un film complètement solide et cohérent, mais c'est un film qui pullule d'idées. Et en plus, si vous avez adoré Dark City, bah, je ne peux que vous conseiller The Crow, parce que vous allez voir vraiment l'esquisse de Dark City. Et je trouve que comparer les deux films, ça permet de vraiment montrer tout le processus mental qui a été celui d'Alex Proyas, qui a vraiment imaginé un univers hyper complexe, hyper original et en même temps super référencé, et qui, là, voilà, qui lui tournait dans la tête depuis des années et qui ressurgit comme ça par petites touches.
Je suis tout à fait d'accord. Hein, d'ailleurs, le plan d'ouverture de The Crow est le plan d'ouverture de Dark City.
Ah oui,
c'est vraiment la même chose, sauf que dans Dark City, il y a plus de budget, il y a un scénario qui est un peu plus solide. Et puis, bon, et puis voilà, il y a un vrai univers. Enfin, moi, Dark City, je l'ai pas revu depuis longtemps, mais c'est un film qui m'avait vraiment beaucoup marqué, beaucoup à l'époque, beaucoup plus que The Crow que j'avais vu. Je trouve que effectivement Dark City est un meilleur film. Néanmoins, quand on regarde The Crow, je suis vraiment globalement d'accord avec ce que tu dis. Néanmoins, Simon, on ne peut pas s'empêcher aussi de voir une certaine maladresse, des plans qui sont quand même pas tout à fait finis. C'est vraiment moi ce qui me gêne aujourd'hui quand je le revois, c'est que j'ai l'impression, pour le dire de manière peut-être un peu épaisse, de voir de revoir des épisodes de Buffy pas très bien terminés.
Ouais,
et pas
dur.
C'est beaucoup plus joli que Buffy quand même, faut pas dire.
Pas la première saison de Buffy, mais enfin ce que je veux dire, c'est que il y a quand même ces espèces d'espace avec aucun arrière-plan, avec des espèces d'images un peu plates, avec je sais pas, je trouve qu'il y a une esthétique qui est quand même qui a pris un méchant coup de vieux.
Il a pris la température de son époque. Oui, littéralement, il a fait le film à l'image de son époque.
Je suis d'accord.
Parce que c'est déjà ce qu'on lui demandait à l'époque où il faisait des pubs et des vidéoclips, quoi.
Oui, mais alors, moi je trouve, et j'ai pour le coup, moi je l'ai découvert peu de temps après sa sortie sale, dès qu'il est arrivé en vidéo, parce que j'étais trop jeune au moment de sa sortie sale, mais avec les copains on sert, ouais, au Vidéoclub Club. Hein. Et déjà à l'époque, j'avais été extrêmement déçu, mais parce que je n'avais pas accès, moi, ou je ne connaissais pas encore. De Guitar Hero, je connaissais pas encore le monde du rock, crunch, gothique ou ce type-là de comics. Donc pour moi, je voyais pas bien trop d'où ça sortait. Je trouvais ça très laid et très chiant. Mais en fait, je l'ai plus apprécié en le redécouvrant, parce que ça fait partie de ces films qui sont à la fois étonnants et un peu fascinants parce qu'ils sont cons mais cool. Les films cons mais cool, c'est les films qui capturent quelque chose de leur époque. Ce que je veux dire par là, et je vous assure que je fais la comparaison sérieusement, peu pour vous faire rire, mais je pense qu'elle est opérante. The Crow, c'est un peu aux années 90 et voilà, il y a l'esthétique gothico-punk, ce que Crossroads est à Britney Spears. C'est-à-dire que c'est vraiment ça, c'est un truc qui peut emmener tous les gens qui adorent ça et donc va encapsuler plein de petits motifs qui peut donner à... Donc du coup, t'as l'impression de voir un peu une capsule temporelle quand tu regardes le film. Et moi, j'ai beau ne pas du tout l'apprécier, bah, ça lui donne une dimension qui est presque kitsch, qui est vraiment étonnante, un peu sortie de son formol. Je trouve toujours cette émotion-là très surprenante quand tu découvres comme ça un film qui a été un phénomène de style, de mode, une marque un peu dans son époque pour des raisons souvent extra-cinéphiliques. Parce qu'effectivement, on l'a dit et redit ici, et ça vaut aussi pour Crossroads de Britney Spears. C'est pas le cinéma qui a marqué dans Crossroads de Britney Spears. Ou dans Coyote Girls. Et c'est ce qui fait aussi, en même temps, qu'on peut revisiter ces œuvres-là. Parce qu'à un moment, on ne les découvre pas que pour leurs aspects cinématographiques. On les découvre parce qu'on se dit, ah putain, on ne fait plus des maquettes comme ça aujourd'hui.
Ouais.
Ah tiens, on ne filmerait pas cet effet de cette manière-là. Ah tiens, dis donc, c'était ça, à ce moment-là, précis dans l'histoire des motifs, des formes. Ah, c'était ça, un personnage qui avait la classe. Ah ouais, dis donc, à l'époque, on pouvait avoir un héros guitariste revenu des enfers qui est là, c'est pas facile. Et à la fois, je ne comprends pas, et en même temps, j'adore ne pas comprendre.
Ah, moi, c'est marrant, j'ai eu un truc encore un tout petit peu différent, c'est que j'ai cherché les références, mais du coup, rock, que j'aime moi maintenant, parce que j'ai 30 ans et ma culture est autre. Donc j'étais là genre, le mariage, est-ce que c'est le maquillage, est-ce que c'est pas un peu du Alice Cooper? Et attends, cette scène là où il va chercher un hot dog, est-ce que c'est pas du Rage Against the Machine que j'entends en fond? Et en fait, c'est un film qui encapsule et si son époque juste pour cette culture là également, en fait, pas juste bien parce sûr. Que c'est MTV, c'est cool, c'est machin. Non, parce que je pense que Proyas a vraiment un vrai amour sincère pour la culture gothique punk de l'époque.
Oui, puis je pense que le fait est que le hasard du calendrier a fait que le film donc sort après forcément le décès de Brandon Lee, donc à ce moment-là le public sait déjà que l'acteur est décédé, ce qui certainement a contaminé le film qui est quand même par instant d'une noirceur plombante quoi. Enfin, vraiment, il y a des moments où t'as l'impression d'être devant le film le plus dépressif de l'histoire du cinéma, et juste après t'as les gunfights à la John Woo. Enfin, il y a un problème d'équilibre mais qui en fait c'est les stigmates de cette tragédie là qui est peut-être l'une des pires tragédies qui soit jamais produite sur un plateau de tournage, ça et l'accident d'hélicoptère sur la quatrième dimension,
et jusqu'à tout récemment sur le tournage de Rust
avec Baldwin a mortellement blessé une chef opératrice pour la même raison, parce qu'il y avait des armes chargé sur un plateau. Enfin, The Crow c'était différent, mais l'armurier a quand même fait une erreur. Il n'utilisait pas des vrais flingues sur des ailes du cinéma, les gars, quoi. D'ailleurs, Alex Proyas a toujours mis un point d'honneur à ne plus jamais utiliser de vraies armes à feu sur ses tournages ultérieurs. On comprend pourquoi. Mais en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ce film-là, donc, il est déjà obscurci par la mort de Brandon Lee. Il se trouve qu'il sort en 94, l'année où Kurt Cobain se met une balle dans la tête. Donc, je pense que d'avoir cette espèce de fantômes gothiques, les cheveux noirs avec du maquillage qui est pas sans rappeler d'ailleurs celui du docteur Caligari de Robert Vineux, qui est perché sur son espèce de gargouille avec un ampli de guitare qui pend dans le vide et qui fait des gros accords saturés en regardant la pleine lune. Évidemment que c'est complètement kitsch et outrancier. Le fait est qu'à l'époque, la réalité est complètement kitsch et outrancière, quoi. C'est-à-dire que l'icône des nouvelles générations s'est fait exploser la tête à coups de fusil de chasse dans sa maison, quoi. Il y a un truc où il y a une noirceur terrible qui habite la pop culture adolescente de l'époque, et je pense que ce film-là vraiment en a pris de la température. Pour moi, c'est une capsule temporelle, en fait, The Crow.
Et c'est ça. Et puis, mais du coup, ce qu'il faut peut-être aussi rappeler à celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être ne le sauraient pas ou auraient tendance à l'oublier devant ce qu'on dit là, c'est que c'est pas un film culte sorti de derrière les fagots qui a été protégé pendant 30 ans par des fidèles. Non, c'était un énorme truc. Je veux dire, c'est un film qui était visible partout. Moi, il est passé à Cône-sur-Loire. Détendez-vous, quoi. Et non, pas détendez-vous, mais tu vois, non, mais il faut bien se rendre compte que, comme tu le dis, c'était la pop culture de l'époque, tu vois. Et quand des gars ils disent, je sais pas si t'as vu, mais Robert Downey Jr. Il est mort dans Civil War, Battle Mon Cul. Tu veux non, tu veux avoir un truc noir un peu et dramatique. Regarde ce qui se passait en 94 au cinéma où on disait, ouais, c'est ça le film grand public. On va tous se rassembler. Allons regarder le rocker zombie tuer des gens.
Ce que je trouve fou, moi, juste par contre, c'est que un film comme ça aurait pu rester iconique seul, et il a engendré donc plusieurs suites, des jeux vidéo, et là un remake en 2024 dont tout le monde se fout complet, quoi.
Est-ce que tout le monde se fout complet du remake? Je suis pas sûr.
Tu trouves qu'il y a une hype autour du film?
J'en sais rien du tout. Me demander de mesurer la hype alors que je suis né en 1891, s'il te plaît.
C'est vrai.
Excusez-moi.
Mais
la hype autour du chemin de fer, la limite. Des années de pratique, mais.
Il paraît qu'il va y avoir un aérotrain entre Paris et Orléans.
dites donc. Non, mais moi qui traîne beaucoup sur les réseaux, qui avec Comini suit ça de près. J'ai l'impression que le commandant Martel s'en fout un peu de ce film, quoi.
Oui, mais il sort en août, il sera vendu comme un proto de John Wick avec Bill Skarsgård, quoi.
Ouais,
Bill Skarsgård qui a fait une grosse cure de vitamine de poulet, là, manifestement.
Alors
il a fait une grosse Joel Kinnaman.
Ce qui est paradoxal, parce que Brandon Lee a fait l'inverse, lui. Parce qu'il faut préciser, parce que Brandon Lee, il n'en fait pas trop étalage dans The Crow, mais en fait, à cette époque-là, lui, il veut casser son image. C'est un acteur de films d'action, de série B, des films d'action qui n'ont pas beaucoup marqué l'histoire du cinéma, hein. Qui se souvient de Rapid Fire aujourd'hui, pas grand monde. Mais surtout, Brandon Lee veut casser l'image de son père, parce que tout le monde le connaît comme le fils de Bruce Lee. Et il se trouve que Brandon Lee aussi, c'est un artiste martial et une espèce de machine de guerre faite tout en muscles. Et donc, il a perdu, je crois, plus de 10 kilos pour le tournage de The Crow. Et en fait, c'est le film qui aurait dû casser son image et le lancer dans un autre univers de cinéma. Puis, malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Un dernier petit point quand même sur ce film-là. Moi, j'ai été vraiment surpris quand je l'ai découvert ce matin, parce que je m'attendais à un truc très daté et un peu suranné. De fait, c'est le cas. Hein. Le film est vraiment dans son jus. Il y a des idées de cinéma dedans, vraiment, que je trouve super. Je vais pas trop en dire, parce que ce serait un spoil, mais il y a une idée de cinéma assez gore avec une gargouille vers la fin du film. Je n'ai jamais vu ça avant. Vraiment, c'est la première fois que je vois une gargouille. C'est une gargouille qui vomit des litres de sang, quoi. Alors, c'est malheureusement saccagé par le montage, parce qu'encore une fois, ils ont fait le montage image à la hâte, parce qu'il fallait avoir le plus de temps possible pour fabriquer une doublure numérique à Brandon Lee. Et le montage, clairement, il y a des problèmes. Et notamment, les images les plus marquantes, pour la plupart, durent pas assez longtemps. On n'a pas assez le temps de les imprimer. Mm. Mais c'est une image super marquante. Et de manière générale, moi, le cinéma d'Alex Proyas, dans ses bons comme dans ses mauvais moments... Et il y a eu des mauvais moments. Hein. Gods of Egypt, c'était quand même sacrément gratiné, quoi. C'est toujours des films que j'ai jamais vus avant, quoi. Même des films de commande, iRobot, c'est une série B d'action, de commande. C'est pas son projet, c'est pas un truc qui lui tient à cœur. C'est même un gros blockbuster. Oui, t'as raison de me corriger, Simon. Bah, n'empêche qu'il y a des idées de scènes d'action là-dedans que j'ai jamais vues. Moi, la course-poursuite où t'as 150 robots qui sautent sur la bagnole du futur de Will Smith qui se retrouvent dans tous les sens dans un tunnel, ça marche super bien. Prémonition, c'est pareil. Il y a des idées de mise en scène dedans. Beaucoup plus rare, parce que le film est vraiment fragile. Hein. Mais il y a quand même la scène du crash d'avion en plan séquence. Moi, je suis désolé, mais ça m'a retourné le cerveau à l'époque. Et Gods of Egypt, pour le coup, c'est un énorme nanar.
C'est un nanar stratosphérique,
mais un nanar stratosphérique qui contient des images que vous n'avez jamais vues avant sur grand écran, quand même. Faut réussir, surtout quand t'as une carrière comme celle d'Alex Proyas, parce que son seul vrai film d'auteur, et de fait son meilleur film, c'est Dark City. C'est le seul de sa carrière quasiment avec Gods of Egypt qui s'est planté au box-office. C'est quand même pas de bol, quoi. Tout le reste, c'est des commandes. Quand il fait des commandes, ça marche. Quand il fait son propre projet, ça se casse la gueule. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a, à mon avis, une certaine noirceur et qui est pas complètement sûr de lui parce qu'il a du mal à trouver sa place à Hollywood. Et depuis Gods of Egypt, je pense que la question est réglée, malheureusement. Mais ouais, c'est un mec qui a débordé d'idées et qui a essayé d'imposer une patte vraiment différente. Et quand tu vois le tout venant des gros débiles qui sont sortis de chez Propaganda Film, exception faite de quelques-uns, franchement, on est dans le haut du panier avec Alex Proyas, quoi.
Et donc, maintenant que j'ai aimé The Crow, vous me conseillez Dark City que j'ai jamais vu.
Dark City, c'est vraiment...
Dark City, ça a pas vieilli pour le coup ?
Si. Ça a vieilli aussi, mais parce qu'encore une fois, Alex Proyas, c'est un cinéaste des années 90. Il a contribué à façonner cette esthétique et Dark City est un film des années 90.
Moi, je trouve c'est surtout Gods of Egypt.
Mais Gods of Egypt,
c'est ce que je préfère de lui de très loin.
Ah ouais ?
Oh waouh !
J'ai pas dit que c'était.
Un popular opinion.
Non, mais tu aimes ça parce que c'est vraiment un nanar spectaculaire.
Certes, mais je passe un moment incroyable. Mais je passe un moment incroyable. Moi, Dark City, je trouve ça mieux que The Crow. Indiscutablement, je vais pas du tout troller ni rien ni quoi, mais je trouve que alors attention, après moi je n'ai pas vu la Director's Cut, donc je me prononce pas sur cette Director's Cut, on m'a dit qu'elle était super intéressante.
Ah bah j'ai même envie de te dire que c'est la seule version du film.
Oui,
mais la version cinéma révèle le twist dans le carton défilant d'ouverture. Alors forcément, ça te gâche un tout petit peu le visionnage du film. Oui. C'est une vraie anecdote. Il y a un carton de texte défilant qui te dit exactement le twist du film.
Le twist qui arrive après 1h50. En 2000 machin, il se passe machin. Tu vois, comme dans le début d'un film de SF, le twist est dans le carton d'ouverture.
Voilà. Ah, parce que je regarde pas cette version-là.
Parce qu'il y a eu des projections dans la version de cinéma. Parce qu'il y a eu des projections test. Avec la version Director's Cut d'Alex Proyas. Et les producteurs ont regardé probablement 15 minutes du film. Ils ont dit, on ne comprend rien. Et Alex Proyas leur a dit, à la fin du film, vous comprendrez. C'est un film à twist. Ils ont dit, c'est pas assez clair. On va rajouter un carton au début. C'est comme si au début de Sixième Sens, tu avais un freeze frame avec une grosse flèche sur Bruce Willis pour dire, il est mort. Vraiment, c'est la même chose.
Je viens de spoiler.
Oui, ça va, c'est le film le moins spoilable de l'histoire. Quoi.
Je me souviens plus du tout de ce truc du carton parce que je me souviens très bien du.
Peut-être que t'as vu la Director's Cut qui est éditée maintenant.
Je crois que je l'ai vu au cinéma.
Et du coup, t'as vu le carton.
Mais tu sais, t'avais déjà 75 ans.
Ouais, sa mémoire était un peu abîmée. Allez, bref, allez donc voir The Crow d'Alex Proyas avec Brandon Lee et Rochelle Davis et profitez de la ressortie 4K de Paramount Pictures et de ESC Distribution. D'ailleurs, c'est marrant, vous savez certainement que les corps vidés ont un niveau d'intelligence comparable aux grands singes et aux céphalopodes et inversement proportionnel à celui d'Aurore Berger et Bruno Le Maire réunis. Vous étiez au courant de ça?
Non, parce que du coup, tu parles bien des cadavres vides et pas des corbeaux.
Voilà, c'est ça, bien sûr. Non, mais du coup, ça me permet de terminer en disant vous êtes plutôt oiseau de malheur ou vautour de la finance. C'était pour amener ça. Bon, allez, pour notre carte blanche, attention, roulement de tambour. On pourra mettre des roulements de tambour, Alexis? Non mais des vrais, des trucs, hein. Tu vois, en post-prod.
C'est un peu plus marrant d'avoir juste des doigts sur une table.
Le top 10 de toutes les palmes d'or d'Arthur après un mois de visage intensif. Il a les yeux écarlates, des croûtes de sang sous le nez et dans le trou des oreilles. On ne devrait pas valoriser ce type de comportement obsessionnel compulsif, mais c'est notre ami, donc on le soutient. Alors, Arthur.
J'en ai vu 72 en deux mois.
Top 10 ou top 5 ?
Expérience super.
Expérience super.
Expérience super, qui permet de relativiser ce propos nul que j'ai entendu plein de fois. Ouais, mais souvent les palmes d'or, c'est pas ouf. Ferme ta bouche, tu ne sais pas, je les ai toutes vues et c'est pas vrai. Il y en a une bonne moitié qui sont vraiment super.
Si je peux me permettre, t'as quand même 50% de films de merde. Non, le dicton n'est pas complètement faux non plus.
Franchement,
hein.
Non, franchement, je dirais un quart vraiment pas ouf, okay. Un quart vraiment pas mal. Et après, 50 films qui sont vraiment super. Okay. Et dont, je pense, au moins 6, 7, 8 chefs-d'œuvre.
Eh bah, allons-y alors.
Eh bah, alors, vas-y, c'est parti. Top 10, numéro 10.
Moi, je me suis mis Pulp Fiction. Parce que, importance dans la pop culture, parce qu'à un instant T, parce que, en vrai, c'est un film que moi.
C'est un très grand film.
Très grand film qui a été très important pour moi.
On est, ouais, ok. C'est validé par le comité.
Oui, on peut dire qu'ils ont quand même eu du flair et ils ont senti le vent de l'eau. Ils ont senti leur époque.
Non, mais vraiment, si vous ne l'avez pas revu récemment.
C'est taré.
C'est solide, hein, Pulp Fiction.
Ah ouais,
c'est
fou,
très, très solide. Hein.
Allez, top 9.
Un film que je n'avais pas vu. Et je me suis pris une belle claque en le voyant parce que. Parce qu'il avait une aura qui le dépassait et que malgré tout, j'ai quand même réussi à être subjugué par et la beauté du plan culte et en même temps, parce que je pensais que ça se passait vraiment beaucoup dans le deuxième, mais je suis un peu bête, Paris, Texas de Wim Wenders.
Réaction du comité ?
Ouais.
Oh, t'abuses de ouf. C'est très grand, Paris, Texas, c'est super.
Ah, mais non, avec mais Paris, Texas, Ray ça Coder. Fait des milliers de kilomètres, mais le film,
c'est.
Ça,
c'est lui, mon comité de validation du top 10, c'est ouais. Ça ?
Non, c'est trois, mais. Non, mais
moi, je t'attends en embuscade. Je suis sûr qu'il y en a un dans la liste que je déteste.
C'est un Wim Wenders, c'est quelqu'un.
Ah, oui, je pense qu'il y en a au moins un que tu détestes, ça, je te le confirme.
Alors, vas-y, top 8.
Les parapluies de Cherbourg.
Ah, putain.
Ouais.
Ah, t'aimes pas ?
Je déteste les parapluies de Cherbourg.
Alors, tu vois, je suis pas très Jacques Demy. Pour moi, Mademoiselle de Rochefort, ça fonctionne pas. Les parapluies de Cherbourg, c'est sublime.
Mais moi, je pense que c'est lié. Mais je pense que c'est lié à la différence fondamentale entre les demoiselles et les parapluies de Cherbourg, c'est que dans les demoiselles, des fois, ça chante pas. Et que c'est peut-être pour ça que ça marche. Parce que les parapluies de Cherbourg, moi, j'ai un souvenir vraiment douloureux de la bande originale. En plus, moi, Michel Legrand, ça passe où ça casse.
La fin des parapluies de Cherbourg, toutes les larmes. Non, mais bien sûr, toutes les larmes du monde.
God.
Je m'en fous.
Simon l'a pas vu du tout. Il dit rien. Simon a pas vu.
Non, j'évite de troller. Non, j'évite de troller, mais j'essaie de trouver un truc à la fois acide et dont les gens n'ont pas l'impression que je troll.
C'était plutôt dans ma team.
C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. En plus, ce qui est merveilleux, moi, j'aime beaucoup toute cette saga de films parce que ça se termine pour moi par une humiliation incroyable. C'est lorsque son dernier film, c'est quoi ? C'est Parking, où il se fait saloper par un Belmondo, où la critique française meurt avant la honte, naît avant la bêtise, avec cette incroyable. Mais je crois qu'on en avait parlé dans ce micro, avec cette incroyable tribune complètement démente où elle dit ah allez, le cinéma commercial est en train de tuer Jacques Demy. Ouais, bah, putain, bah, vivement John Pinte quoi. Non, c'est dégueulasse ce cinéma.
Non, non, très grand, très grand.
Alors ensuite, top 7.
Conversation secrète que j'ai mis plus haut que Apocalypse Now ouais. Parce que je considère que
Conversation
c'est
secrète, c'est remarquable
ouais.
C'est, moi ça a été une énorme déception non, mais... moi.
Ouais
mais je pense on me l'a trop survendu mais je l'ai découvert il y a peu de temps je l'ai découvert dans mes rattrapages okay. Très canne en fait non c'est pas incroyable c'est un film passionnant c'est un film passionnant d'accord. C'est pas incroyable
mais tu vois moi ce qui est intéressant c'est que moi je l'ai découvert il y a quelques années à l'époque je ne connaissais pas exactement ce qu'était ce film comment ça s'inscrivait dans sa filmographie à Coppola et ce que ça signifiait et je me suis juste pris le film dans la tronche. Et après, je me suis renseigné, j'ai lu dessus et tout ça. Moi, je trouve le film est incroyable. Mais ouais. Incroyable.
Ça marche pas sur moi, mais...
Top 6.
Top 6, je suis content parce que... Donc, la première édition, à proprement parler, du Festival Cannes, c'est 1939. Mais bon, il y a eu la guerre, donc il n'y a pas vraiment eu de prise. On a eu un posthume en 2002, mais donc...
On a invité tout le monde, il y a que les Allemands qui sont venus.
Voilà. Donc, le premier vraiment festival, c'est en 1946. Et sur les 100 films, ils ont récompensé 11. Il se trouve que dans les 11... Il y a beaucoup de films nul à yèche, mais vraiment des trucs vraiment qui sont au fin fond du fin fond de mon classement. Mais il y en a deux en fait qui sont assez hauts. Il y a Rome ouverte qui est dans mon top 20 et il y a Brève rencontre de David Lean qui est sublime.
David Lean,
c'est mon numéro 6.
Top 6.
C'est mon numéro 6. C'est immense. C'est le monsieur qui a fait les films les plus longs de la Terre, qui fait une histoire d'amour en 1h30, c'est parfait de A à Z.
Comité.
Je l'ai pas vu.
Moi non plus.
Bah moi non plus.
Ha !
Top 5.
David Lean qui me manque.
Top 5, c'est la dernière. Je m'étais gardé ça pour la fin. Je me suis bouffé 78 et j'ai terminé par un monstre que je voulais en plus resituer dans la filmographie. Donc je me suis rattrapé avant La Ligne Rouge et Le Nouveau Monde. C'est Tree of Life.
Bon, validé par le comité Théodule.
Bah, c'est Malik, c'est Dieu.
C'est Malik, c'est magique.
Franchement,
c'est validé, mais je trouve ça quand même inférieur au Nouveau Monde et à la Ligne Rouge. Mais
c'est je trouve qu'il atteint un step dans sa poésie.
Non, mais ça reste. Attention.
Il est chagrin.
C'est un immense film comparé aux deux qui suivent. Mais je trouve ça juste bien.
Je trouve ça très très fort.
Top 4.
Je vous en avais parlé ici, la toute première fois que je parlais du marathon, je crois. Film de Mikhail Kalatozov, Quand passent les cigognes. Juste sublime. Et justement, c'est un film qui m'a permis de me rappeler que parfois je me prends juste l'émotion dans la tronche et parfois je suis fasciné par des plans. Et il y a notamment un plan, je le cite 3 secondes, mais il y a un plan où les deux personnages principaux montent un escalier. On est en 57 et Kalatozov va juste inventer une espèce de système pour faire monter la caméra et faire un plan séquence où la caméra va les suivre dans un escalier en colimaçon. Et la caméra monte et on les suit, on est toujours à hauteur d'eux. Et je regarde les plans, je dis, mais comment il a fait ça? Et bien sur Wikipédia, il t'explique qu'en fait, il a inventé la manière de procéder à ce truc. Tout est comme ça, c'est magnifique, c'est sublime de A à Z quand passe à Sigun.
Numéro 4.
C'est validé complètement.
Évidemment, je l'ai pas vu, mais je suis d'accord. Moi non plus, j'ai pas vu.
Mon top 3,
allez,
il est vraiment
dans le
pour
top 3.
Faire
nouveau roulement de tambour.
Pour faire plaisir à Nico, c'est Oncle Bunny.
Ah,
qui m'a retourné le crâne, mais que
merci,
je ne comprends pas ce qui se passe.
Mais merci, qu'est-ce que j'aime ce film.
Et j'aimerais bien le revoir en salle, mais il passe pas souvent.
Ah non,
mais
parce
que
je crois long en plus.
Je crois que c'est La Palme qui a la moins bien marché en salle de l'histoire du festival en France.
Alors c'est la plus accessible. C'est quelque chose comme ça. À part moi, les autres, non.
Si, j'aime beaucoup le film. J'ai une légère préférence encore pour celui qu'il a fait après, Cemetery of Splendor.
Ah ouais.
Que je trouve. Enfin, qui m'a cassé.
Jean-Claude Boumi, je trouve.
Mais c'est très, très, très.
Donc le Boumi, Alexis.
Pas vu, figure-toi. Mais non, mais c'est pareil, je veux le voir au cinéma, il passe jamais. Donc pour l'instant,
top 2.
Je pense pas que ce soit le film que je préfère de cinéaste, et pourtant, c'est quand même un 5 sur 5 pour moi. C'est La Lola, David Lynch.
Ah, ok.
Oh, bon, c'est turbo validé. Hein.
Oh, ouais, franchement, c'est...
Moi, je trouve que c'est le film le plus faible de David Lynch, qui est pourtant mon dieu, mon maître.
Ouais, mais
etc.,
c'est parce que
mais...
c'est son plus classique, entre gros guillemets, c'est son moins fou, mais pourtant, formellement, c'est exceptionnel.
Moi, c'est mon préféré. Voilà.
Ah ouais?
Ouais, bien sûr.
Moi, c'est Mulholland Drive, mais.
J'aurais pas mis aussi haut, mais c'est un film que je trouve très cool.
Et attention, top 1.
Attends, je me suis tapé tous ces films pour mettre un film qui était déjà mon numéro 1 avant même que commence le marathon, c'est La Leçon de Piano de Jane Campion, que je trouve juste parfait.
C'est
juste parfait.
Très bien, mais numéro 1 quand
même. Ah ouais,
moi,
si je trouve ça parfait.
Moi, je pas en
alors qu'il existe des films comme Deep Pan, par exemple.
Ah, Deep Pan, tu veux dire le film qui est actuellement 95 sur 100 dans mon classement?
C'est généreux.
Ah, ouais. Non, moi, La Leçon de Piano, je trouve ça exceptionnel.
Très, très beau.
Sublime,
très beau
de
film.
A à Z. Mais je vois que le comité ne le valide pas.
Pareil, moi, c'est un film que j'aime bien, mais ce n'est pas un film que j'aurais mis en top. Ce n'est pas un film que j'adule ou que j'adore à ce point-là. Quoi.
C'est un film que j'aime beaucoup, moi, je trouve remarquable à plein d'endroits. Dans les Palmes d'Or que j'aime et que j'ai vues, je pense qu'il pareil, il aurait été plus bas.
Toi, ton top 1, ta Palme d'Or top 1, c'est Amour.
Seulement les scènes de couche.
De Michael Haneke-Leleu.
Non, c'est le ruban blanc.
Je dois vous dire.
Le ruban blanc que vous m'aviez. Franchement, ce n'est pas le pire des Haneke. Hein.
Oh, pas du tout, non.
Ah, c'est le moins insupportable.
Parce que Amour, c'est plus difficile. Hein.
Ah, mais Amour, c'est atroce. Non, le ruban blanc, moi, le ruban blanc, c'est, je pense que c'est le seul Haneke que je peux regarder.
Ah, et pendant avoir envie de
la
pianiste, la pianiste.
Ah non, moi,
la pianiste,
c'est
pas la palme, c'est pour ça que je suis.
Ah, oui, moi, la pianiste, je suis
bête, excuse-moi, bien sûr, évidemment. J'aime beaucoup la pianiste pour le coup.
Bon, bref. Et tu continues à prendre les médicaments qu'on t'a donnés, la bonne posologie, t'en prends toujours autant par jour, tout va bien?
Oui, docteur. Ouais.
Merci. Voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Cannes approche à grands pas. Vendredi, c'est notre dernier épisode hebdomadaire normal. On y parlera de grands singes, d'amis imaginaires et de Jeux Olympiques ratés. Mais d'ici là, on se retrouve vendredi. Bye, les amis, et le repassé.
Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that?
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.